Ils ont changé le monde. Les vêtements. Ivan Jacob.
Avec sa souplesse, il a rompu avec la rigidité de nos vestiaires, histoire d'un vêtement réconfortant, le pull en maille.
Vous avez d'ailleurs sur vous un très beau pullover, vous l'avez tricoté vous-même ?
Oui.
Il pullover.
Il y a une fragilité dans la maille, tous les gens ont peur de laver leur pull.
C'est chaud, c'est élastique, ça correspond à la vie actuelle.
On peut la mettre au frigo pour enlever les mythes.
Constance est un pull de jersey dont la cagoule s'enroule aussi comme un foulard.
Il pullover che m'hai dato.
J'ai une passion aussi dans la vie, le tricot.
Il semble inoffensif, ce petit pull en maille soigneusement plié dans votre armoire, attendant patiemment l'automne. Sous son apparence douce et réconfortante, difficile de percevoir ce qu'il pourrait avoir de révolutionnaire. Pour qui n'est pas familier de l'histoire de la mode, il n'est pas évident de comprendre à quel point le tricot a influencé l'évolution des pratiques vestimentaires, redéfini la notion de confort et transformé la manière dont nos corps bougent. Moins emblématique que le jean, moins politique que le pantalon, le pull a néanmoins marqué une rupture essentielle avec la rigidité des tenues de nos ancêtres. Il incarne à lui seul plusieurs grands mouvements de mode du XXe siècle, le passage du vestiaire sportif au vestiaire urbain, du vestiaire masculin au vestiaire féminin et du vestiaire formel à des codes plus décontractés. Aujourd'hui, nous parlons du pull en maille et de la façon dont il a changé le monde. Et pour tirer avec nous sur ces pelotes de laine, deux invités de marque. Alexandre Sanson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la mode, commissaire d'exposition et vous êtes le responsable des collections haute couture postérieure à 1947 et des créations contemporaines au Palais Galliera, le musée de la mode de Paris. C'est très long comme titre.
Oui, oui, mais écoutez, ça résume bien l'affaire.
Et Gauthier Borsarello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un éminent spécialiste du vintage, cofondateur du magazine L'Étiquette, et vous avez une troisième casquette puisque vous êtes aussi directeur de la création de la marque Fursac. Vous avez récemment publié aux éditions du Chêne le livre Good as Old, coécrit avec le journaliste Marc Baugé, et qui présente une collection de vêtements embellis par le temps.
Absolument.
Avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Gauthier Borsarello, de quand datent les plus anciennes pièces de maille que vous croisez dans votre métier ? Et deuxième question, la plus belle pièce que vous ayez vue passer jusqu'à présent dans votre carrière ?
Plus belle pièce tout court ou en maille ?
En maille.
En maille. Ce que je vois le plus ancien, le plus souvent, c'est la fin du 19e et début 20e. Souvent des pièces de l'ouest de la France, donc normande ou bretonne. Donc souvent des tricots marins. J'en rentre en maille aussi le jersey, donc les tricotages de coton, donc les
bien
marinières.
Sûr.
Et les maillots de bain. Les maillots de bain qu'on trouve assez fréquemment, souvent américains, des années 10 et 20. Vous savez, qui étaient en une pièce pour femmes aujourd'hui, mais qui était la même chose pour les hommes, avec une découpe sur le côté, donc ça on en trouve un petit peu. Et la plus belle pièce que j'ai, je pense que c'est un pull de marin, fin 19e en indigo, avec une très belle réparation sur la patte de boutonnage à gauche, qui était une patte de boutonnage qui a été ajoutée après la création du pull par, je pense, la femme, la mère, la grand-mère, ou peut-être le marin lui-même s'il était couturier, mais la patte a été rajoutée sur le côté, donc ça c'est une pièce que j'aime particulièrement.
Vous faites une distinction qui est importante, on peut commencer par cette définition, parce que la maille inclut le jersey, mais souvent dans la mode ce sont des postes différents.
Oui, parce que tout simplement, en fait, la maille, c'est souvent du fully fashion, c'est fabriqué d'une seule pièce, d'un seul tenant, alors que le jersey est en coupé cousu. Donc, en fait, on construit le jersey comme le chaîne et trame, c'est-à-dire qu'on coupe le patron et ensuite on le monte à la surjeteuse, le plus souvent. Alors que la maille, c'est vraiment, faut imaginer un tricot comme votre grand-mère en une seule pièce. Donc, on appelle ça du fully fashion. Et donc, ces deux techniques sont très différentes. Il y en a un où vous créez vraiment presque un logiciel informatique pour créer votre vêtement. Et l'autre, comme traditionnellement dans le chaîne et trame, vous coupez vos pièces et vous les assemblez.
Alors le chaîne et trame, il faut expliquer.
Chaîne et trame, c'est le tissu, simplement, c'est ce qui est
tissé, en fait,
tissé. Donc
il y a,
vous avez une chaîne et ensuite vous avez la trame qui vient s'enchevêtrer avec différentes techniques.
Perpendiculairement pour le coup.
Perpendiculairement à la chaîne.
Alexandre Sanson, vous qui faites régulièrement des acquisitions pour le compte du musée de la mode de Paris, est-ce qu'il y a une pièce de maille que vous rêvez d'acquérir pour les collections du musée ou à titre personnel d'ailleurs ?
Une pièce en maille que je rêverais d'acquérir pour la collection du Palais Galliera, ce serait certainement un pull de Schiaparelli de 1927. qui est vraiment le basculement officiel et très médiatisé de justement de l'influence du pullover de fantasy dans la garde-robe féminine et dont le Palais Galliera possède les échantillons d'origine en fait. Mmh. Et avoir un exemplaire complet, ce serait vraiment une très belle addition.
Et vous avez une pièce en maille préférée, personnelle, que vous portez souvent ?
Oui, j'ai le pull de mon père, de l'armée, qui est un pull que je porte très régulièrement, mais qui est couleur verte, et vu que je porte que du noir, je le garde pour les week-ends.
Et un bonnet aussi en maille dont vous m'avez parlé.
Voilà, tout à fait, de Jean-Paul Gaultier, qui était une collection Rabbin Chic, qui est de petites cornes.
Et que vous mettez au frigo pour le conserver ?
Oui, pour resserrer la maille, tout à fait.
Incroyable technique.
Et ça tue les mythes en même temps. Donc c'est une bonne double action.
Un bon conseil aux auditeurs.
J'ai une passion aussi dans la vie, le tricot. Nous avons eu une grande discussion avec Jacques parce qu'il voulait m'acheter une machine à tricoter. Je voudrais bien savoir ce que deviendrait l'artisanat. Ce serait la fin du tricot. Je m'y suis refusé catégoriquement. Et si jamais je devais recevoir ce très beau cadeau, j'ai l'impression qu'il serait à la base de bien des discussions. Chez moi, voyez-vous, il y a de la laine partout. Et le plus grand plaisir que l'on puisse me faire, c'est de me signaler une maison où il y a de la belle laine, aux couleurs extraordinaires. Pauvre Jacques, j'ai l'impression qu'il n'aime pas tellement les essayages, car un pullover a besoin d'être essayé beaucoup. Il faut aussi que je vous fasse un aveu. Je les finis rarement, ces pullovers. Je les commence, ravi, et puis au fur et à mesure que le travail avance, je trouve ça trop long. Alors j'en recommence un autre, et ce pauvre Jacques ne possède en fin de compte que des moitiés de pullover. Mais il aurait tort de perdre tout espoir. Il se peut bien qu'un jour, j'en finisse un. Ah. Ce jour-là, j'ai l'impression qu'il invitera tous nos amis à arroser son premier pullover.
Vous avez peut-être reconnu la voix d'Edith Piaf, qui évoque les pulls qu'elle tricote pour son mari Jacques Pils. Alexandre Sanson, l'art de tricoter est très ancien, on en trouve des traces dès l'Antiquité. Mais l'histoire du pull, proche de celui que nous connaissons aujourd'hui, commence au 19e siècle, c'est ça ?
Oui, alors il commence, et ça peut-être Gaultier pourra en parler plus facilement que moi et plus librement, c'est commence vraiment au 19e siècle, en tout cas dans les traces que l'on retrouve, même si la place du jersey, du tricot est bien plus ancienne, mais dans les sphères populaires et les sphères du vêtement de travail. Et ce qui est amusant, c'est que le pull est vraiment emblématique du basculement et de tous les basculements qui ont lieu à la fin du 19e, basculement du populaire vers justement une garde-robe plus élitiste, basculement également de l'Angleterre vers la France, avec l'influence justement aussi de toute une culture, d'une culture de l'extérieur, moins guindée, plus basée sur le sportif. Et ça, c'est une espèce d'aura qu'a l'Angleterre à la fin du 19e siècle et qui a une immense influence sur la France.
Avec un rôle de la famille royale, je crois, qui se fait photographier dans des pulls marins ou des marinières sur les yachts.
Oui, mais pas que, parce qu'on a vraiment tout aussi une pratique sportive, du golf, de la villégiature, du yachting également, où le pull est omniprésent, simplement parce que c'est beaucoup plus confortable pour les hommes, moins pour les femmes, parce qu'il faut toujours penser que le pullover, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on retire par la tête. Or, les femmes devaient toujours sortir coiffées et avec un chapeau, et donc forcément, c'est quelque chose d'assez peu pratique pour elles à ces périodes-là.
Pour rebondir sur le pull sportif, il y a le cricket sweater qui est absolument mythique, qui vient d'Angleterre aussi, qui est le cricket sweater, donc avec un cable knit et un col en V, souvent aux couleurs de l'équipe, qui était porté pour les combats de cricket, qui est un sport qui n'a pas été importé en France, mais qui était extrêmement important et souvent photographié en Angleterre.
Gaultier Bartolo, vous présentez dans le livre Good as Old un pull officiel de la marine française, fabriqué par la marque Le Minor. Irrétrécissable, dites-vous, immaculé de taches de peinture, car son propriétaire était peintre en bâtiment. Le pull, c'est vraiment un vêtement de travail au départ.
L'histoire de ce pull est bien plus drôle que ça, parce qu'il n'était pas peintre en bâtiment. Je rentrais chez moi et je suis passé devant une école de sculpture d'un sculpteur, à mon avis, qui n'a pas vraiment bien réussi.
qui n'a pas percé.
Qui n'a pas percé, qui donnait des cours de sculpture. Et il fumait sa clope devant son atelier, avec ce pull Minor complètement recouvert de plâtre, de peinture, déchiré, etc. Et donc je suis allé vers lui et je lui ai dit, votre pull est extraordinaire. Il m'a pris littéralement pour un fou. Et je lui ai dit, je peux vous l'acheter ? Il me dit, moi je vais avoir froid dans mon atelier, je mets que ça. Il dit, écoutez, je vous donne le prix du neuf et je vous l'achète. Et là, le mec hallucine, il me dit, le prix du neuf, le même. Je dis, ouais, il fabrique exactement de la même façon. J'avais la chance que ce soit vrai parce que le Minor fabrique encore exactement de la même façon aujourd'hui. Donc j'ai donné 200€, j'ai pris son pull, tout pourri. Je l'ai nettoyé, un petit peu rafistolé. Je l'ai posté sur Instagram et Francesco Risso chez Marni m'a dit, je veux absolument ce pull. Et donc il a fini, je lui ai vendu le même prix. Il a fini dans les archives de Francesco qui aime beaucoup ces choses très, oui, détruites, customisées. etc. Et donc il l'a porté, il a beaucoup apprécié parce qu'il est tout troué sur les côtés. Donc c'est marrant comme la valeur d'un objet, il y a ce truc de old money et new money, mais c'est vrai qu'il y a, on peut donner de la valeur à l'usage ou au côté neuf. Le sculpteur préférait un neuf évidemment, et nous les mecs de la mode on préférait le même mais complètement déchiré.
Bien sûr.
J'ai oublié ta question.
Mais c'était un vêtement de travail en tout cas, puisque
c'est un vêtement de travail. Oui, c'est un vêtement qui en fait qui c'est un chandail. On en parlait tout à l'heure avec Alexandre. Le chandail vient du marchandail qui portait ça sur les marchés pour vendre l'ail entre autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait pour être chaud, pour être souple. Ça se prête assez mal au port d'une chemise en réalité, donc c'est plutôt avec une marinière. Il y a une très belle illustration un peu plus récente, je trouve, du pull marin. C'est Bruno Dumont dans Maloute. Et il y a cette famille un peu étrange qui mange les touristes, vous savez. Et toute la famille porte des pulls bretons sans rien dessous. Et on voit sous leur patte de boutonnage qu'ils n'ont pas de t-shirt, etc. Je trouve ça extrêmement beau et voire sexy. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Gainsbourg qui le porte comme ça, en repliant la patte avec rien dessous. Moi, je trouve, tu disais que c'est moins mythique que le jean. Je trouve qu'en France, il y a une pièce mythique du vestiaire français, c'est le pull marin. Mmh. C'est ce qu'on a le mieux réussi à incarner, à mettre dans la culture populaire. Je trouve que même plus que la marinière, parce que la marinière, il y a tout de suite un truc très, pas déguisé, mais très reconnaissable. Le pull marin, il se fond dans toutes les couches sociales.
Oui, c'est devenu un cliché, la marinière aussi.
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est un peu pas un déguisement, mais tu dis, bon, il a mis sa marinière, tu la mets une fois par semaine maximum. Le pull marin, je trouve qu'avec le jean brut, la bottine et le blouson en cuir, c'est l'icône de la silhouette française. Tu vois tout de suite la gauloise et le café, quoi.
Alors l'ancêtre de ce pull marin, on l'appelle aussi le Guernsey, puisqu'il était fabriqué à Guernesey, porté depuis plusieurs siècles par les marins anglais, vous en parliez Alexandre Sanson, et il va devenir une partie de l'uniforme naval à la fin du 19e siècle. C'est comme ça aussi qu'il va se répandre, en fait l'œil va s'habituer à cette silhouette en pull.
Oui, tout à fait. Et à nouveau, je pense que Gauthier saura plus le développer, mais c'est effectivement une sorte d'habitude qu'on voit. Pour ce cas dans la mode particulière, c'est à nouveau cette histoire de regard de la culture britannique qui va à nouveau favoriser justement le port de ce pull dans les hautes sociétés.
Gauthier Barsarello, vous parliez du sport, vous l'avez évoqué aussi Alexandre Sanson, et notamment du bain. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les collections du Palais Galliera. Il y a beaucoup de tricots au début du XXe siècle dans le sport.
Oui, alors malheureusement, c'est des choses qu'on conserve moins, parce que le Palais Galliera conserve des garde-robes de famille la plupart du temps aisées, vu que les politiques d'acquisition des décennies passées sont moins concentrées justement, avaient été moins sensibilisées comme nous le sommes aujourd'hui sur le vêtement de travail, le vêtement populaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaie de recalibrer. Et donc c'est des choses qu'on a beaucoup moins, mais on voit tout à fait ce basculement qui arrive et qui bien sûr s'incarne véritablement avec Gabrielle Chanel durant la Première Guerre mondiale.
Alors avant d'arriver à Chanel, est-ce qu'il y a des techniques, je vous pose la question à tous les deux, des évolutions majeures à ce moment-là dans la façon de fabriquer la maille, des machines, enfin, ça c'est le cas au 19e siècle, mais qui vont favoriser l'essor de la maille?
La rembailleuse, je pense que c'est la machine qui a fait que ça a été beaucoup plus facile. C'est le fait de, vous voyez ce que c'est une machine circulaire pour appliquer le col sur le vêtement. C'est encore une technique qui est difficile à maîtriser, donc des vraies rembailleuses, c'est difficile à trouver la personne qui sait servir cette machine-là, parce qu'en fait c'est point par point, donc ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que l'industrialisation du monde, en fait, à la fin du 19e et du 20e, a beaucoup aidé au développement de la maille, parce que c'est quelque chose qui est en fait difficilement au départ remplaçable, la main humaine, contrairement par exemple au métier à tisser, qui était au départ à bras, puis en fait à navette mécanique, c'est la première chose qui a été vraiment développée. Et ensuite dans le tricot, c'était moins facile, parce qu'en fait il y a un truc de volume à développer et de 3D qui est beaucoup plus difficile à faire qu'une machine à tisser qui est à plat.
Et progressivement le tricot va aussi devenir une matière à la mode, sous l'impulsion d'une créatrice en particulier.
Une mode qui imite une époque révolue, historique. Est-ce de l'extravagance?
Oh, ça m'apparaît stupide à moi, personnellement. Vous comprenez, c'est une époque finie. La mode, c'est pas ça. Vous comprenez, la mode, c'est en avant, c'est pas en arrière. On ne recule pas, on ne fait pas des choses qu'on fait. Il faut vivre avec son époque.
C'est-à-dire approprié à la vie?
Oh, j'aimerais mieux penser à 1960 qu'à 1958.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier?
Ah, permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comment dire, je crois que c'est le don que je possède, enfin si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai,
Il faut savoir dans le corps humain ce qui bouge et ce qui ne bouge pas.
Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps. Même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parler calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Et bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Il ne fait rien. Il tient.
Cette créatrice, Alexandre Sanson, c'est Gabrielle Chanel. Évidemment, qu'est-ce qu'elle apporte à la mode des années 20 ?
Elle apporte surtout à l'histoire de la mode, la modernité. Plus que Paul Poiret qui dit avoir libéré le corset, lorsqu'on ouvre une robe Paul Poiret, on découvre à l'intérieur une ceinture de taille, un gros grain très contraignante, et surtout avec une esthétique extrêmement luxuriante et qui regarde vers ce qu'on appelait à l'époque l'orientalisme. Gabrielle Chanel, elle comprend le corps de la femme et va vraiment le libérer. Donc on a vraiment ce corset qui parcourt évidemment tout le 19e siècle, qui le structure, et encore au début du 20e siècle, avec des propositions très extrêmes de basculement vers l'avant de la femme avec une silhouette en S. Paul Poiret, à la fin des années 1900, propose justement une silhouette directoire, donc avec une taille sous la poitrine, et donc ça permet de libérer la taille. Mais en fait, quand on regarde la structure du vêtement, on voit bien qu'il il est assez frileux, dans le sens où il respecte une sorte de psychologie de la cliente qui voudrait pas basculer tout à fait vers l'absence de corset.
C'est-à-dire que le maintien est encore très
voilà,
présent.
Le vêtement le tient quand même le corps beaucoup, et bien sûr, en plus, il fait des silhouettes entravées, avec des jupes entravées, donc voilà, il est sur un vêtement statique presque, et la pose un vêtement d'image, plus qu'un vêtement de vie, ce que Gabrielle Chanel va complètement faire basculer, avec, durant la Première Guerre mondiale, justement, à Deauville, où, effectivement, alors que les hommes sont au front, elle va, à partir de 1915, détourner une matière, qui est le jersey, qui était un produit à l'époque par Rodier, et c'est une matière pauvre à l'époque, même si on a des jerseys de soie d'une extrêmement belle qualité, de laine également. Et elle va les détourner pour en faire des marinières, ce qu'on appelle des vareuses, surtout c'est plutôt des formes de vareuses, et des jupes, et les faire porter justement massivement par elle-même déjà, puisqu'elle est son propre, elle a sa propre ambassade, et qu'elle va porter à Deauville, et par mimétisme, les femmes vont justement la suivre, parce que simplement ça correspond exactement à la mentalité de l'époque, qui est juste une sorte de recul aussi, de genre de d'humilité aussi face au contexte, mais qui bien sûr également de confort absolu.
Il faut bien comprendre ce mouvement qui est d'utiliser une matière qui était pour les sous-vêtements et masculin en plus, qui va devenir une matière utilisée pour des vêtements de dessus et en plus des vêtements qui ont un coût relativement élevé.
Oui, alors la maille est présente dans la garde-robe féminine également, vous l'avez dit, dans les dessous, ou sur des détails, notamment détails de poignets, notamment
oui,
en jersey de soie ou de colle.
Les extrémités de corps, les mains, les pieds,
voilà,
la tête.
Des petites finitions justement de look qui, de l'époque. Et elle va vraiment, et c'est son grand pari, hein, c'est de détourner complètement cette matière. C'est aussi une matière qui est aussi peu onéreuse, moins onéreuse que certaines autres, et elle va en faire ce détournement avec un immense succès et qui va vraiment signer la patte de Chanel sur le XXe siècle, qui est justement le mouvement et la légèreté.
Elle disait, Gabrielle Chanel, j'ai rendu au corps des femmes sa liberté, ce corps sué dans des habits de parade, sous les dentelles, les dessous, le rembourrage. La révolution, c'est vraiment ça, c'est la fluidité de cette nouvelle silhouette.
C'est la modernité, ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire la liberté de mouvement et le confort, qui voilà, et dont la basket aujourd'hui est l'un des derniers.
On en parlera aussi.
Dernier écho. Mais c'est vraiment ça quelque chose. C'est une mentalité qu'elle met en place et qui est absolument révolutionnaire à l'époque.
Et j'imagine qu'elle va aussi avec le développement du confort de vie, avec le chauffage, avec les voitures, avec le fait qu'on était beaucoup moins dehors. J'imagine que c'était aussi suivre, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais j'imagine que ça suivait juste l'évolution naturelle de la société, non?
Alors, c'est intéressant ce point que vous soulevez, Gauthier Borsarello, parce que je vais laisser Alexandre Sanson répondre, mais il y a quelque chose dans cette époque-là qui va avec la révolution des transports aussi. Il y a un besoin de vitesse, de mobilité qui se généralise, non?
Oui, au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est évident. Pas quand Gabrielle Chanel fait conçoit en 1915, durant la Première Guerre mondiale, le détournement du tricot et du jersey. Mais effectivement, les années 20, c'est une période de modernité absolue. Tout doit aller très vite. La mode doit aller très vite, justement. On a les courses de vitesse avec les voitures, l'automobile qui se met en place et qui aussi que se popularise.
Et on veut oublier ce qu'on vient de vivre aussi, j'imagine. On ne veut pas regarder derrière
voilà,
du tout.
C'est une fuite en avant, un peu, de mettre le passé derrière soi et d'avancer vers plus de contemporanéité.
Et on croit au progrès à ce moment-là, très fort. Gabrielle Chanel lance une offre sport dès 1921, mais elle est loin d'être la seule. Il y a Jeanne Lanvin, Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Lucien Lelong. Tous les créateurs et créatrices de l'époque vont lancer leur ligne spéciale dédiée au sport. Alors, Alexandre Sanson, c'est pas non plus du sportswear tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ce sont des vêtements plus confortables.
C'est une pratique sportive. Et donc, ça concerne évidemment la maille, le tricot, mais c'est également chaîne et trame. On a des robes de tennis notamment, qui fait une pratique, un sport très à la mode dans les années 20, mais dès la fin, dès les années 10, et qui justement implique, on n'est pas vraiment une pratique sportive telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais la haute couture se met justement à regarder justement le mode de vie des femmes, essayer de produire, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça en est haute couture, et que la haute couture c'est un mode de vie, donc on peut produire tout ce que vous voulez, on peut produire vos sous-vêtements, on peut produire vos déguisements si vous avez une soirée costumée, et on peut également faire vos vêtements de sport. Et donc ça c'est vraiment tout ce qui va être reconnu, et on aura notamment Jean Patou qui va même s'associer avec des sportifs, avec Suzanne Lenglen qui va habiller, donc on a vraiment la mentalité de l'époque.
On évoquait Elsa Schiaparelli tout à l'heure, vous en avez parlé à propos de son pull trompe-l'œil. Elle est très influente dans les années 30 et elle va créer des pulls d'une modernité impressionnante. Est-ce que c'est une pionnière ?
Elle est moins pionnière que Chanel parce que la proposition qu'elle fait de ces pulls, qui sont des pulls fantaisie en fait, c'est-à-dire que c'est des pulls dont le tricot et la maille ont des motifs qui dépassent la simple rayure et sont des motifs fantaisie de trompe-l'œil notamment, avec des nœuds, des cravates. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup plaire à l'époque parce que c'est effectivement les années 20 mais vu avec un regard plus de légèreté et d'amusement. Et c'est véritablement aussi très important parce que elle s'appuie sur des techniciennes qui sont des techniciennes arméniennes en fait, et donc issues de l'immigration arménienne à Paris et qui ont justement ce savoir-faire de maille et de tricot, et c'est vraiment elles qui vont produire tous ces pulls et qui sont derrière en fait tous les échantillons que le palais Galliera conserve, qui ont été faits même donnés par les familles arméniennes de l'époque. Donc c'est vraiment plus un point de vue amusé et un détournement à nouveau du pullover qu'on appelle déjà à l'époque le sweater ou le jumper. Vers quelque chose de plus presque surréaliste, comme en tout cas
ça répond au mouvement surréaliste de l'époque qui devait
bien sûr
bien correspondre
à ce qu'Schiaparelli va prendre quelques années plus tard.
Gauthier Borsarello, on observe un mouvement qui est assez similaire dans la mode homme. Il y a un portrait du prince de Galles, Édouard VIII, qui était une gravure de mode, dans un pull en jacquard à motif fair isle. Il disait que ce pull, notamment, avait contribué à adoucir la sévérité du costume masculin.
Absolument, oui. Et c'est parfaitement réédité chez Anatomica, ce même modèle, encore fabriqué en Angleterre. Donc je vous incite à aller le chercher parce qu'il est très beau.
Vous pouvez nous décrire ce qu'est un fair isle ?
Un fair isle, en fait, ça représente les familles ou le clan ou différentes... votre famille, ce que vous voulez, c'est censé représenter la personne qui le porte.
C'est le nom d'une île en Écosse.
Exactement, ouais. C'est le nom d'une île en Écosse avec ce savoir-faire-là. Souvent, c'était Shetland, donc c'était bruché pour ajouter de l'épaisseur. Donc, en fait, vous prenez la laine, vous la avec des chardons, il les grattait pour créer du volume. Avec le volume, vous créez une couche d'air, et cette couche d'air vous isolez, donc vous tenez plus chaud. Et c'est vrai que ça détend énormément la silhouette du trois pièces. C'est quelque chose de souple parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais le chaîne et trame à l'époque était très contraint, que ce soit les chemises, les gilets, les vestes, moins que les femmes évidemment.
Mais quand même, chez les hommes aussi, on a moins.
Ah oui, tout était contraint. Mais même aujourd'hui, vous voyez, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis le Covid, les gens ont un peu abandonné la chemise et la cravate parce que c'est les choses les plus contraignantes au profit du tricot, justement. Donc les gens portent du col roulé l'hiver, des polos l'été ou des pulls col rond en maille fine, en mérinos ou en cachemire. Mais c'est vrai que là, en ce moment, la maille prend une place colossale dans le vestiaire masculin. Et malheureusement, c'est aussi ce qui a été le plus impacté par l'explosion des matières premières depuis le Covid. Donc ça coûte plus cher, mais les gens n'achètent plus. Donc c'est plutôt pas mal pour le business. Mais c'est vrai que c'est le premier pas vers le confort en général chez un homme, c'est la maille. C'est-à-dire qu'on quitte une pièce chez Netram qui est la chemise pour la maille. Et même si vous restez en costume, c'est la première pièce que vous abandonnez.
Alors il y a un autre pull jacquard qui a connu une petite célébrité dans les années 40. C'est celui que portait Jean Marais dans le film L'éternel retour de Jean Delannoy. Mais il faut dire qu'après la guerre, les pulls en maille ne sont plus très à la mode.
Dans cette première neige où le Mont Blanc retrouve sa légendaire splendeur, sont apparues avec les premiers sportifs les premières toilettes de neige. C'est là qu'Hermès propose à toutes celles qui unissent l'amour du ski et le goût de l'élégance le dernier cri de la mode de montagne. Celle-ci a choisi Edwige, dont le fuseau d'élastis, un tissu spécial, se complète d'un anorak de popeline bicolore qui jettera une jolie tache sur l'immaculée des pentes. Cette année, la ligne générale reste solidement classique. Pulls et anorak ont le genre confortable et pratique qui assure au maximum l'aisance des mouvements. Ainsi, Constance est un pull de jersey dont la cagoule s'enroule aussi comme un foulard. offre un pull à cagoule indépendante. Mais il faut surtout remarquer le tissu élastique du fuseau qui le maintient impeccable. Jockey est un peu gamin peut-être avec son chapeau protège-soleil. Modèle unique en tout cas pour les intrépides qui préfèrent rester assises. Audrey est encore un très joli modèle pour la lecture, mais il est tout aussi parfait sur les pistes. De Muriel et de Bérénice, on ne dira rien, rien. Sinon que du point de vue de la mode, la neige a toutes les couleurs du prisme et que pour les unes ou pour les autres, c'est souvent cela, la montagne.
Ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Les créations Hermès aux actualités françaises de 1956, où l'on découvre que pull, à l'époque, se dit poule, vraiment comme l'animal. Alexandre Sanson, dans les années 50, le pull, c'est surtout le gros pull de ski.
Pas tout à fait, parce que on voit que dans les boutiques des maisons de couture, notamment de ce qu'on appelait des colifichets, si vous voulez, qui est une sorte d'ancêtre du prêt-à-porter qui était en train de se mettre en place du reste en France, et on a vraiment des propositions de corsage qui sont en jersey. Notamment chez Schiaparelli, on en parlait, mais chez toutes les maisons de couture, vous avez vraiment une présence de mailles et tricots qui est moins mise en valeur, c'est sûr, par la mode, parce qu'il y a moins d'attention, tout simplement parce que les années 50, c'est justement pour le dessin de la silhouette, or le tricot, voilà, cache un peu, mais c'est pas pour ça qu'ils ne produisent plus. Il y a même des maisons qui sont spécialisées, hein, dès les années 30, uniquement en tricot. Je pense à la maison Annie Blatt, qui fait de la haute couture avec des vêtements uniquement crochets en tricot. Donc c'est quelque chose qui est vraiment déjà présent. Les années 40, effectivement, vont être très importantes pour le tricot, et vous l'avez dit, parce que c'est beaucoup de récupération et met en place déjà des laines détricotées, et c'est un processus qui aura beaucoup d'impact après, donc c'est de récupération de matière, vu qu'elles sont toutes... leur usage et leur consommation est très contrainte. Mais les années 50 vont remettre en place vraiment le jersey, mais pour justement quelque chose de beaucoup plus coupé, beaucoup plus près du corps.
C'est-à-dire que quand on voit les images de mode des années 50, il faut faire la distinction entre cette mode officielle dans les magazines, etc., et ce que les femmes portent en réalité.
Pourtant, elle en parle beaucoup. Quand on regarde Saint-Germain-des-Prés, les rues parisiennes, on voit que le col roulé noir, la mode du col roulé noir se met en place à la fin des années 50, même au début des années 50, je pense à Juliette Gréco. Et quand on regarde ces pulls, on voit en fait que c'est des pulls qui sont près du corps et qui sont structurés par des pinces. Et c'est des belles pièces assez modelées, moulées, justement, avec des pinces poitrines, avec des pinces pour les hanches. Il y a vraiment quelque chose qui met en valeur la silhouette le plus possible, et qu'on a notamment de porter par Audrey Hepburn au Funny Face. C'est vraiment cette image la plus populaire de cette esthétique.
La deuxième révolution intervient dans les années 60 avec des créateurs comme Kenzo et surtout Sonia Riquel qui vont proposer des mailles ultra créatives, colorées, originales.
J'ai épousé un homme qui était dans la mode et je voulais avoir 10 enfants. J'en ai que 2. Et je me suis retrouvée... un peu oisive, ne sachant pas quoi faire. J'ai fait un pullover, par hasard, comme ça. Ce pullover a fait 7 fois l'aller-retour Paris-Venise, c'est-à-dire fabrication bien, fabrication pas bien, fabrication bien, fabrication pas bien. Au bout de 7 fois, il était bien. C'était donc dans la boutique de mon mari. Il y avait une rédactrice de Elle qui était là. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On a ouvert le paquet, elle a fait le pull et il a fait la couverture de Elle, et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui.
Alexandre Sanson, il a quoi de spécial ce pullover créé par Sonia Riquel et que Françoise Hardy porte en une du Elle en 1963?
C'est un pull col roulé, c'est ce qu'on appelle à l'époque le pull chaussette. Donc c'est un pull très très près du corps, qui vous maintient, qui vous galbe, mais qui est d'une maille assez fine, un tricot assez fin, mais qui surtout est ce qu'on appelle une maille fantaisie, vu qu'elle est vraiment structurée, son motif est structuré par des rayures multicolores, et donc ça rentre tout à fait dans l'esthétique de l'époque, mais surtout pousse le mode de vie de la nouvelle génération, des baby boomers justement, pour justement une libération aussi du corps féminin. Après, les années 50 sont très contraints, on est à nouveau dans un système qu'on avait déjà vu mis en place avec la Première Guerre mondiale et les années 20, et les années 20, les années 60 sont cela de très proche, que justement elle libère la taille. Et donc c'est aussi un moment de libération du corps à travers ce pullover qu'on voit chez Sonia Riquel, mais pas que, notamment chez Dorothée Biss avec les Ellie et Jacqueline Jacobson, qui mettent en place, et qui sont amies hein, du reste, et qui mettent en place au même moment cette attention vers la maille et le tricot.
Est-ce que c'est l'émergence aussi du prêt-à-porter, vraiment l'essor réel du prêt-à-porter à ce moment-là?
Oui, c'est l'explosion d'une d'une compréhension d'une production industrialisée, mais de qualité. Et donc c'est ça aussi que c'était de regarder d'un très mauvais œil avant la Seconde Guerre mondiale. On voit justement sur la Seconde Guerre mondiale qu'on a cette attention particulière et que peut se mettre en place sur le modèle américain, évidemment, et de reconstruction, système d'industrialisation, mais que ça allait aussi de pair, qui était déjà en place avec le workwear, hein, avec le vêtement de travail, pardon.
Ouais.
Cette industrialisation, cette normalisation des tailles, c'était déjà mis en place. Mais justement, c'était regarder avec un haussement de sourcil par les castes les plus favorisées. Or, justement, il y a ce basculement dans les années 60, il y a cette nouvelle génération qui arrive et qui a besoin de s'habiller très vite, tout de suite. On retourne la vitesse des années 20 dans les années 60 et le regard vers le futur également. Et qui ont vraiment envie. Et le pull va aussi accompagner ça et ça va aussi accompagner les créations de haute couture. Courrèges notamment, Pierre Cardin, c'est de la maille du tricot.
C'est vrai.
Sous les jupes, justement, trapèzes.
Riquel disait aussi « Je voudrais qu'un pullover raconte ce qu'il voyait à l'intérieur, qu'il parle de la chair, de la douceur de la peau. Il a accepté le marché à une condition, c'est que dorénavant, on dirait que l'envers vaut l'endroit. » C'était dans une conférence au Grand Palais en 1987. Il y a un aspect très sensuel aussi de la maille, Gauthier Borsavalo.
Absolument, moi je trouve que c'est un des vêtements les plus sexy qui soit, parce que justement il vous moule quand vous le pull over. Et en fait, selon le tricot et selon la côte, il vous met en valeur, c'est-à-dire qu'il efface vos défauts, il vous galbe, comme disait Alexandre. Donc moi je trouve ça extrêmement valorisant, le pull chaussette qui est le pull de marin. Est-ce qu'il y a plus sexy qu'un marin? Je crois pas. Donc il y a cette silhouette qui est très iconique, en fait, de ce haut très près du corps. Il y a ces marins danois à la fin 19e, début 20e, qui étaient extrêmement moulés en haut avec des gilets double boutonnage très serrés et leurs pulls. Et un pantalon ballon en bas immense avec des gros sabots. Et ces silhouettes, moi, je les trouve absolument sublimes. Je les trouve très valorisantes pour le corps masculin.
5 ans plus tard, le magazine Elle, toujours, met en scène un avant-après, une comparaison entre deux pulls avec, pour légende, à gauche, un pull comme il y en a beaucoup d'autres, comme ils étaient tous avant Sonia. Au repos, il ferait peut-être illusion. Le test des bras sur la tête ne pardonne pas. Les pulls de Sonia sont aussi minces en mouvement qu'au repos. Le mouvement, c'est un peu le mot-clé, Alexandre Sanson.
Oui, à nouveau. Comme dans les années 20, on retombe sur une envie de mouvement, de moins lié au sport, mais cette fois-ci pour la libération vraiment du corps social, presque, de la femme avant tout, même si on retrouve vraiment plus les mêmes applications sur l'homme aussi à l'époque, mais moins, peut-être moins outré, moins imagé que chez Courrèges et Cardin. Mais effectivement, c'est ce confort absolu des mouvements, et on voit aussi de manière un peu accentuée la mode de la combinaison totale, en fait, qui est un peu de cette même esthétique, vu qu'elle est intégralement en tricot et en maille, ce qu'on appelle le tout en un à l'époque, et qu'on voit à la fin des années 60 émerger, et on voit même cette haute couture redévelopper même des modèles en maille. Chez Yves Saint Laurent, on fait des combinaisons complètes en 69 avec des jerseys de Racine à nouveau.
Jersey de Racine
Oui, Racine, qui est un producteur de tricot et de maille du sud de la France. Extrêmement connu à l'époque, il fournit énormément, mais même depuis le début du XXe siècle, mais il fournit énormément la haute couture, notamment les robes Mondrian, et ça c'est intéressant, c'est de la maille, les robes Mondrian, c'est de l'incrustation de maille.
C'est du jersey
très compact.
C'est un jersey un peu particulier parce qu'il est très. Moi je ne l'appelle pas vraiment du jersey parce que je trouve qu'il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus épais, très compact, tu l'as dit. Vraiment, on peut le couper presque comme un très beau lainage, un drap de laine, tellement il est épais. Il s'appelle un Paris Midi, c'est le nom de la typologie de maille de tricot.
On parlait de mouvement, il y a une très belle illustration de l'intervention de la maille dans le mouvement, c'est René Lacoste quand même qui crée la chemise pour faire du sport, c'est la parfaite illustration de toute notre discussion, et qui crée ce vêtement uniquement pour créer justement du mouvement et du confort pour l'activité sportive.
Tout à fait, et d'ailleurs Sonia Riquel, elle va proposer des pulls mais aussi le reste de la garde-robe en maille, vous le disiez, il y a des tailleurs, il y a des combis, il y a des robes, il y a des pantalons même, ça correspond aussi à une évolution de la société, à une évolution de la place des femmes dans la société, dans ce contexte-là.
Oui, c'est un jeu de décontraction. C'est l'explosion de la haute couture dans ce qu'elle a de plus ruisselante, c'est-à-dire d'une idée qui vient du haut et qui après est reprise et interprétée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce système-là. Il explose en 68 avec la fermeture de la maison de Balenciaga, puis la mort de Chanel en 71. Mais surtout, il correspond plus à la mode de vie des femmes. C'est quand même la haute couture, c'est minimum 6 essayages. Pour votre vêtement, quel qu'il soit. Imaginez, même si vous commandez un pull, vous pouvez aller jusqu'à 6 essayages en couture, donc, parce qu'il est tellement bien fait et que les finitions sont tellement précises que c'est une exigence aussi qui est très particulière, mais qu'on retrouve aussi dans le prêt-à-porter et qui se met en place aussi avec l'explosion de la mode monolithique. pour une compréhension de la mode telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire de groupes, de tribus presque, qui épousent la singularité des personnes. C'est l'individualisation de la société qui apparaît dans les années 60, qui se met en place avec des personnes qui n'ont plus envie de correspondre, qui ont envie de mélanger les styles presque et de se caractériser dans l'espace social par leurs vêtements.
Alors, le vestiaire féminin est moins cintré à la taille, moins épaulé, il se libère. Et chez les hommes, le mouvement est aussi à la recherche de confort.
Les structures de la mode masculine font que, incontestablement, dans notre pays, on croit que c'est la mode féminine la plus importante, mais si on considère les chiffres, on se rend compte que ce sont les hommes qui consomment le plus, non seulement de produits, l'évolution des produits de beauté, l'évolution de la mode, de la chemiserie, et que tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est loisir, qu'on partait il y a 10 ans en vacances avec encore un costume de fil à fil gris, ce qui est inconcevable actuellement. C'est pourquoi, dans les prochaines années, on va voir un homme nouveau, un homme qui mettra des sahariennes, un homme qui mettra du jean l'été surpiqué avec le pantalon assorti, un homme prêt à mettre des cols roulés n'importe où. Cet homme veut absolument plaire, ne pas vieillir. Nous ne faisons plus un costume qui dure 10 ans, mais qui donne 10 ans de moins à celui qui le porte.
C'est une archive que j'adore, c'est Ted Lapidus. On voit qu'il y a cette recherche de confort, de jeunesse, très similaire à ce qui se passe chez la femme. Qu'est-ce qui joue à cette période-là, Gauthier Borsarello?
Ce qui est assez marrant, là, c'est qu'il parle de business, en fait. C'est qu'il se dit qu'il y a un nouveau potentiel colossal et que les hommes vont commencer à leur vendre plein de choses. Il y a aussi c'est un changement social. C'est la recherche du confort dans toutes les activités différentes de votre vie et sortir du complet, en fait. Moi, c'est une période française qui m'intéresse énormément parce que jusqu'ici, l'homme, depuis la fin de la royauté, s'habiller uniquement en fonction de son rôle dans la société, donc vos vêtements correspondent à votre métier, d'où vous venez, etc. Mais il y a quelque chose de très strict et assez radical. Les hommes en noir, que représente assez bien M. Sanson aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation américaine post-Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a la naissance du cool, la naissance du vêtement, la naissance du prêt-à-porter, pardon. Et donc avec le cinéma, avec Hollywood, avec la présence américaine, des Américains sur notre territoire, on se rend compte que le jean, en fait, c'est très pratique. Porter une veste militaire sur un jean, en fait, c'est cool. C'est aussi illustré au cinéma Hollywood. Donc on est abreuvé de cette nouvelle façon de consommer le vêtement. Et la maille en fait partie, parce qu'on a tous les polos, on a toutes les pulls col rond, les pulls col V, les cols roulés, qui remplacent petit à petit le complet. À l'époque, les hommes avaient 2 complets d'hiver, 2 complets d'été, 10 chemises, et puis c'était tout. Et en fait, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus varié que ça. Et voilà, il y a vraiment une découverte de la fantaisie, j'ai envie de dire. Donc, il y a les Anglais qui arrivent avec leur musique, en plus, via le Golf Drouot, donc la petite boîte de nuit qui est au-dessus de l'actuel McDonald's à Richelieu Drouot, qui s'appelait le Café d'Angleterre. Et à l'étage, ils appelaient ça le tremplin. Et les jeunes venaient jouer du rock'n'roll là, d'Angleterre ou de France. Et là, on commence à mettre un perfecto sur un pantalon de tailleur, une petite bottine qui s'appelait les Beatle Boots parce que c'était porté beaucoup par les Beatles, encore une fois sur le pantalon de tailleur, voire le complet. Et donc, il y a ce mix, si vous voulez, de toutes les cultures qui commencent à envahir la jeunesse et qui rendent ringards ceux qui ne sont pas habillés comme ça. Et petit à petit, on découvre le prêt-à-porter.
C'est une époque complètement foisonnante, celle que vous préférez. C'est les années 60, des années 60 aux années 80.
En fait, c'est les Trente Glorieuses, simplement, c'est 45-75. Moi, je la trouve fascinante parce que par la culture, les révolutions sociales, les révolutions sexuelles, tout commence à se mélanger. Il y a aussi la femme qui commence à prendre de plus en plus de place dans la société, commence à travailler de plus en plus, etc. Donc, les hommes se sentent envahis, donc se déféminisent. Donc, en fait, ils se féminisent à partir... Féminisent, c'est pas une très bonne façon de le dire, mais deviennent plus précieux, prennent soin d'eux, etc. Et en fait, quand la femme commence à prendre de plus en plus de place dans un nouveau territoire qui est le monde du travail, l'homme se sent un peu envahi, et donc il commence, donc ça c'est un petit peu plus tard, à la fin des années 70, il commence à vouloir rejouer à l'homme macho, donc il remet des épaulettes, la barbe, il tombe le bijou, il y a de moins en moins de bijoux qui sont portés. Alors dans les 60-70, justement, l'homme prend vraiment soin de lui.
Alors avant la vague des créateurs des années 60, il y a 2 gros endroits de production pour la maille, la production en grosse série industrielle sans originalité, et puis le tricot à la maison. À partir des années 60, avec ses créateurs, on va découvrir tout ce dont le tricot est capable.
Et la maille, alors, donc, est une des tendances fortes de l'hiver, comme pratiquement de tous les hivers?
De tous les hivers, et puis je crois que plus ça ira, plus il y aura de maille, parce que c'est quand même irremplaçable. C'est chaud, c'est élastique, ça correspond à la vie actuelle. On peut en faire ce qu'on veut. Je crois qu'Azdine Alaïa en a fait une démonstration merveilleuse. Hein,
Donc je crois que la maille, en effet, c'est un atout pour tout le monde du reste. Et peut-être que c'est justement dans la maille qu'on a peut-être fait le plus d'efforts et où on trouve aussi des choses meilleur marché et accessibles tout à fait bien.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Gauthier Borsarello, Alexandre Sanson, est-ce que vous partagez l'avis de Catherine Larder, rédactrice en chef de Marie Claire, qu'on entendait là en 1986, la maille permet-elle de tout faire ?
Tout faire dans la vie, ouais, j'imagine.
Non, mais des créations vraiment très originales.
Ouais, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est les matériaux aussi utilisés. C'est-à-dire que c'est l'explosion du plastique quand même dans ces époques-là. Donc, quand elle dit qu'on peut baisser les coûts dans la maille, à cette époque, on met beaucoup de polyester, beaucoup de tergal, beaucoup de choses synthétiques qui font considérablement baisser les coûts et qui font suer considérablement également. Donc, dans cette recherche de confort, je trouve des dead stock de cette époque-là et que je veux les porter, c'est absolument injouable aujourd'hui. On s'est déshabitué de ça. Mais je pense qu'à l'époque, c'est quand même une révolution de pouvoir porter sous votre costume quelque chose d'élastique et de confortable, comme elle le dit, et de pouvoir le laver à 90 degrés sans que ça bouge. Parce qu'à l'époque, la maille qui était tricotée par votre femme, votre grand-mère, etc., c'était très difficile à laver. Là, on a vraiment l'essor. Donc, elle parle de confort, mais aussi de praticité. Qui pour moi est un gros défaut parce que ça vous fait vraiment suer quand vous le portez, mais dans la vie quotidienne, c'était quelque chose de révolutionnaire.
C'est un combat que je partage, vraiment, la lutte contre le polyester, c'est mon combat, le combat de ma vie. Alexandre Sanson, c'est un terrain de jeu gigantesque pour les créateurs de la deuxième moitié du XXe siècle, la maille.
Oui, en fait, on voit une diversification de ce que est même un pullover. Et on a vraiment des interprétations à travers des créateurs, et je pense tout particulièrement à Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, qui en 1976 justement commencent vraiment à lancer une production qui, et bien sûr en parallèle, mettre en place les Johnny Rotten comme leader musical, et qui va justement intégralement l'habiller. Et au Palais Galliera, on a la chance d'avoir un pull punk porté par Johnny Rotten, justement créé par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood, qui est un pull avec des mailles très lâches, en mohair, comme des mailles récupérées de plusieurs pelotes différentes, avec des taches de couleur en aplat, et qui véritablement est même presque bouloché, et qui même feutré tellement il a été porté. Et il a Johnny Rotten a même mis une petite croix avec deux épingles à nourrice sur le devant. Donc il y a toute une histoire autour de cette pièce, mais qui est très emblématique parce qu'elle va vraiment montrer une sorte de créativité où on est sur quelque chose de complètement déstructuré, avec des trous. Ça, c'est très important aussi pour les Japonais, les créateurs japonais qui vont arriver en 1981 à Paris, donc Reikawa Kubo et Yoji Yamamoto, qui vont également exploiter cette histoire du vêtement pré-vieilli presque, faire changer la mentalité européenne, même si elle était présente, comme les dandies du 19e siècle qui aimaient que leurs matières soient pas neuves, qu'elles soient un peu râpeuses, et ben justement vont faire vieillir les matières au soleil notamment, vont les décolorer, et notamment la maille et le jersey avec des trous, et ça avait une immense influence sur Martin Margiela, qui va même reprendre un pull punk, qui va faire tricoter par sa mère avec des manches à balai. Et c'est toute la production de Martin Margiela en 91, ça va être ça. Paru tellement Raph Simons qui regarde Martin Margiela. Donc on a toute une lignée justement de créateurs et de créatrices qui se regardent les uns les autres et qui développent justement et qui font la synthèse de découvertes des précédents.
J'ai eu la chance en Italie de rencontrer la femme qui produisait les premières mailles de Martin Margiela.
Miss Diana.
Ouais, Miss Diana, et qui m'a raconté les nuits d'angoisse qu'elle avait passées après les demandes de Martin Margiela, c'est-à-dire de faire de la maille d'apparence mangée par les mythes, de faire cuire de la maille au four, donc à développer des mannequins qui étaient capables de résister à des grosses températures pour modeler la maille, etc. Il se passe énormément de choses en recherche et développement à ce moment-là.
Oui, il y a une interrogation, alors surtout de la part de Martin Margiela, sur justement comment le vêtement neuf créé peut renvoyer une image d'avoir été porté pendant des années.
C'est une des buts déviants de notre civilisation, je trouve. C'est quand on fait des efforts pour produire quelque chose qui est censé être usé, enfin qui veut ressembler à l'usure. C'est quelque chose qui est très old money, en fait, comme façon de réfléchir, comme tu disais, Alexandre Sanson, comme sur la côte est américaine, où on élimait les pulls, les cols de chemise, les revers de veste, avant d'arriver à l'université, pour pas montrer qu'on venait de les acheter. Mais c'est vrai que c'est un code vraiment de l'ancien argent, et c'est quelque chose qui, moi, dans ma façon de réfléchir, j'arrive pas du tout à le comprendre. Et je pense que nos ancêtres ou nos grands-parents ont beaucoup de mal à le comprendre.
Ah, oui, pour les grands-parents, c'était très difficile à comprendre.
De payer très cher quelque chose d'usé, et on se souvient des diesels ou des énergies ou ce genre de jeans dans les années 2000-2010. Mais c'est...
Je pense qu'il faut le voir à la fois chez les créateurs japonais comme chez Martin Margiela, comme une performance artistique à ce moment-là.
Plus et un changement de mentalité aussi, et de espèce de paradigme et de modification intellectuelle justement sur justement ce qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que le vêtement neuf, est-ce que ça existe vraiment.
C'est très bien dit parce qu'est-ce que c'est que le vêtement neuf, c'est très bien dit. Tu sors d'une boutique, t'enlèves l'étiquette, c'est plus un vêtement neuf.
Et voilà, changer si l'esthétique du neuf, qui est en fait quelque chose qui est une démarche potentiellement occidentale, notre démarche du neuf, l'appétence qu'on a pour le neuf, c'est, on a grandi avec. Et déjà, ce que les Japonais apportent, justement, mais même Vienne Westwood auparavant, c'est de détruire cette apparence-là et de montrer que le vêtement a vécu et qu'il y a même eu des crises. On pense justement aux crises pétrolières des années 70, on pense au sida en 81. Il y a tout ce moment-là où, en fait, bah, la société, c'est la fin des 30 Glorieuses, la société bascule. Justement, l'espoir dans le futur est moins brillant que ce qui ne pouvait l'être dans les années 60. On a justement toutes ces interrogations, ces doutes qui se mettent en place, et la mode reflète complètement toutes ces peurs.
Donc on regarde en arrière pour la première fois, tu veux dire, avec, en créant des vêtements neufs déjà usés.
Pas forcément dans le cas de comme des garçons qui regardent jamais en arrière, mais plutôt dans le changer nos démarches et changer notre manière de penser même et de concevoir même le vêtement. Avec Martin Margiela, il regardera plus vers le passé en reproduisant notamment l'identique des vêtements. Ça c'est encore une autre démarche, qui s'appelle la réplique. Ouais. Et en ayant l'honnêteté intellectuelle aussi, c'est important de dire d'où vient le vêtement. Et ça c'est une démarche très impressionnante parce que beaucoup de gens l'ont fait avant lui et les gens le font encore aujourd'hui sans même citer d'où vient le modèle qu'ils ont pris parfois de manière exacte. Et donc voilà, on est sur le postmodernisme, justement, avec une nouvelle démarche. Avant, on rejetait le passé dans les années 60, là, on l'accueille, on le revoit, on y cherche des exemples qui ont fonctionné, et on comprend surtout que tout ça n'est qu'un cycle, un grand cycle, et que les choses reviennent, mais elles sont réinterprétées, c'est donc cette réinterprétation qui compte.
Alors, on continue dans ce cycle, Alexandre Sanson. Dans les années 80, Jean-Paul Gaultier vend ses mailles seconde peau chez Al Capone, le premier concept store à Paris, fondé par les créateurs Marité et François Girbeau. C'est la preuve ultime que la maille est le summum du cool, Gaultier Borsarello.
J'imagine, ouais, c'est vrai qu'Al Capone, c'est un grand mythe parisien. Et en plus, quand c'est validé par Monsieur Girbeau, c'est encore plus Monsieur et Madame d'ailleurs. Mais oui, c'est la maille, pour moi, a toujours été cool. Il y a toujours justement cette notion de cool parce qu'elle vous autorise des mouvements qui ne sont pas contraints. Et j'ai l'impression que le cool, c'est beaucoup la nonchalance et le fait de s'oublier, d'oublier le vêtement. Et vous oubliez beaucoup plus facilement un vêtement qui est très confortable. Et parfois, il ne faut pas aller trop loin parce que quand vous êtes en full jogging basket, je pense que vous oubliez tellement qu'il n'y a plus aucune tenue. Mais je crois que l'élégance et le style vient quand vous oubliez votre vêtement.
Et alors la maille, elle va s'adapter à toutes les cultures, les sous-cultures. On a l'image de Kurt Cobain avec son fameux cardigan informe en live sur MTV. Un cardigan vendu à 334 000 dollars aux enchères en 2019. Est-ce que la maille peut être rebelle ?
Absolument. Bah oui, justement parce qu'elle autorise tout ce confort. Donc les rebelles, en général, ils veulent pas être contraints par quoi que ce soit par les codes sociaux, politiques ou même leurs vêtements. Il y a son jean aussi qui a été vendu il y a pas très longtemps pour beaucoup de centaines de milliers d'euros. Mais ce cardigan représente quelque chose parce qu'en plus c'est un vêtement bourgeois au départ. Si vous avez dit, c'est un pull mohair qui est très prépi en fait, enfin qui est très très classique américain. Et en fait, lui, il a tellement porté, il y a des trous de boulettes. Enfin, on voit qu'il a vécu, qu'il s'est sûrement piqué ou qu'il a beaucoup fumé avec. Et du coup, on voit la vie de Kurt dedans. Et en plus, bah, MTV Unplugged, de ce live-là, c'est le live ultime, à mon sens. C'est l'album ultime de Ralph Lauren, de Kurt Cobain. Parce que, ouais, c'est il est à son summum. Donc, c'est pour moi la pièce la plus iconique de Kurt. C'est son cardigan en mohair.
Il y a un autre vêtement, Gaultier Borsarello, qui m'a attiré l'œil dans votre livre, c'est le gilet d'un scout américain des années 60 en laine jaune recouvert de patchs cousus à la main. Il y a une dimension très intime dans la maille, peut-être plus qu'avec d'autres types de vêtements, et puis c'est un moyen d'expression aussi.
Oui, alors je regrette j'ai trouvé un pull extraordinaire quelques semaines après la fin du shoot de ce livre.
Il faudra refaire un livre.
Mais un pull de l'armée française qui a été entièrement rafistolé avec des gros fils, ça m'a fait penser à ce cardigan, effectivement, scout, qui est très mignon parce qu'il est tout petit, mais il y a des boutons qui sont trop grands par rapport au cardigan, donc il a quelque chose un peu de Wes Anderson, il fait un peu bancal, et il y a des énormes patchs scout cousus dessus partout, devant et dos, et je trouve très touchant la maille parce que il y a une fragilité dans la maille. Tous les gens ont peur de laver leur pull en disant, ah, je l'avais trop chaud, de feutrer. Quand il y a un trou, comment je le répare? J'avais une grand-mère qui avait un œuf en bois qu'elle glissait dans la maille pour ravauder. La maille, ce terme que j'adore d'ailleurs, de ravaudage, de restauration de la maille. Et donc, ouais, pour moi, le pull, il y a quelque chose quand il vous va, quand il vous tient chaud, quand il a la bonne longueur, la bonne largeur, quelque chose d'extrêmement précieux et presque d'un peu magique. Je sais pas si vous ressentez ça, vous aussi. Quand vous avez votre pull parfait, c'est un peu comme le jean parfait. Il est très, très difficile à avoir. Et une fois que vous l'avez, vous le mettez, mais avec parcimonie, parce que vous savez qu'un jour, il sera plus là. Et quand il commence à se déchirer, vous voulez le restaurer. Et il y a quelque chose de très affectif, je trouve, dans le pull.
Mais c'est vrai qu'on a tous vécu des accidents dramatiques de machines à laver avec la maille.
Ah ouais. Et le séchage aussi. Ouais.
Et le séchage. Alors, quels sont vos conseils?
Alors, déjà, je peux raconter un drame personnel. Quand j'étais musicien classique, je suis parti en tournée et j'avais ramassé un petit peu d'argent avant de partir. Et j'avais acheté un pull Ralph Lauren en coton, dans une grosse maille, qui est, à mon avis, une erreur. Et je suis parti en tournée, donc seul, sans maman. Et j'ai lavé mon pull, parce que j'avais fait la fête avec. Il était saumon, avec le logo vert pomme. Très classe. Et j'ai lavé ce pull dans ma chambre d'hôtel, en tournée, et je l'ai suspendu par les épaules.
Aïe.
Voilà. Et il m'arrivait littéralement, déjà que je suis pas très grand, mais il m'arrivait vraiment au genou. Et je me vois appeler ma mère en me disant, maman, comment je fais pour sauver ce truc-là? Et elle me dit, c'est trop tard, en fait, la maille est complètement détendue, il est en coton, c'est mort. Et je crois qu'on a tous vécu ça. Et ma recommandation, c'est de très peu laver vos pulls, honnêtement, parce qu'en fait, c'est pas sale. Surtout quand c'est en laine, c'est auto-lavant, on peut dire. Jusqu'à ce
on peut la brosser, c'est ce qu'on faisait dans le temps.
On peut la brosser, exactement. On peut la mettre au frigo pour enlever les mites. Et quand on la lave, il faut la mettre en programme laine ou le laver à la main, et surtout séchage à plat. Je crois que ça m'a traumatisé à vie. Je lave toujours mes pulls et je les fais toujours sécher à plat.
C'est vrai que dans les siècles passés, on lavait davantage les vêtements de dessous, c'est une habitude qu'on a un peu perdue. Les vêtements de dessus étaient brossés ou mis au soleil, mis à l'air pour être un peu tapés, un peu essuyés comme ça. Mais,
on les lave trop aujourd'hui.
Gauthier Borsarello, je rappelle que vous êtes aussi le directeur artistique d'une marque de mode. Est-ce que la maille est une catégorie importante dans les collections que vous imaginez aujourd'hui?
Que j'imagine et qu'on m'impose aussi. Parce que depuis le Covid, il y a une grosse partie, c'est une marque qui est très orientée business. Et il y a une énorme partie du business qui s'oriente vers la maille, ce qui n'était pas le cas avant Covid. On vendait beaucoup de chemises blanches et bleu ciel et de cravates. Et en fait, ils m'ont surtout embauché après Covid pour développer tout ce qui n'était pas ça. Parce qu'ils ont vu un gros chiffre de consommation. Et en fait, la première chose, comme on disait tout à l'heure, c'est que les personnes shiftent de la chemise cravate pour la maille. Donc on a un énorme business sur ce qu'on appelle les mailles fines, donc c'est mérinos, col roulé, col rond, col polo, que les gens portent pour aller travailler. Et ils ont remplacé le costume par chino et blazer, et les chemises cravates par la maille. Donc oui, c'est un énorme développement dans les proportions des ventes. On voit qu'il y a un gros essor de la maille.
La maille, c'est aussi un travail très technique. C'est encore aujourd'hui un laboratoire d'innovation technique, de recherche et de développement. C'est quelque chose que vous vivez au quotidien?
C'est quelque chose que j'adore. Alors moi, c'est surtout les mélanges de matériaux que j'aime beaucoup, parce que je considère un peu comme les races humaines. C'est peut-être pas très politiquement correct de dire, mais quand vous mélangez deux types de fibres, en fait, vous ne gardez que la meilleure partie des deux. Donc en fait, une matière métisse, parce que ça s'appelle comme ça, le métisse dans la maille, par exemple le coton est léger, est rond, est doux, mais il se déforme, et quand vous le mélangez avec de la laine, vous avez la chaleur de la laine et la douceur du coton. En fait, ça prend les deux caractéristiques positives des deux fibres quand vous les mélangez. Donc soit le lin-coton, le lin-laine, le laine-coton, c'est des choses que j'aime beaucoup travailler, ou le cachemire-coton, etc. Je mélange tout ça, et dans mon développement, dans une marque qui n'appelle pas un développement créatif extrêmement extravagant, je dirais, parfois malheureusement pour moi. Et quand même, je m'amuse justement à travailler le confort du client final, qui, notre client en général, est un client pragmatique, qui veut un prix, un confort, une durabilité. Et donc, j'aime beaucoup faire de la R&D sur comment favoriser ce confort-là dans la vie quotidienne. Donc, le mélange des matières est vraiment ce que je travaille le plus.
On a compris que vous n'allez pas vendre des pulls avec des trous, Gauthier Borsarello.
Non. Non, mais alors, ça, c'est une éthique personnelle. C'est vrai qu'en tant qu'ancien pauvre, c'est vrai que j'ai du mal avec la patine pré-travaillée en usine. Donc, c'est quelque chose que je m'interdis même totalement. Je fais zéro patine ni lavage.
Alexandre Sanson, vous qui écumez les défilés de la Fashion Week parisienne, est-ce que vous avez le sentiment que la maille reste importante dans la création contemporaine?
Oui, elle l'est pour notre société, donc elle est à nouveau absolument prégnante chez tous les designers, et ça reste toujours un territoire d'expression à développer. On voit notamment tout ce qu'a fait Azine Alaïa sur les choses mailles sculpturales, ces choses qui peuvent atteindre des niveaux de trois dimensions assez exceptionnels. On voit tout le temps de recherches sur le tricot qui sont faites. Donc, je pense que déjà elle épouse par son confort et son élasticité tout à fait notre envie de mouvement, de liberté de mouvement, donc ça marche très bien. Et en plus, elle peut développer des choses beaucoup plus extravagantes, beaucoup plus spécifiques, mais qui font justement évoluer la création et notre regard.
Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en école de mode, on apprend assez mal la maille parce que techniquement, ça demande de l'industrie. Donc en fait, c'est quelque chose souvent que les DA découvrent quand ils ont un job. Et là, vous rencontrez des techniciennes, des techniciens et des stylistes maille. Et c'est vraiment un autre métier, en fait. Ils voient pas du tout le vêtement de la même façon. Il faut le penser en 3D. Vous avez pas un atelier en bas qui vous monte un pull en jauge 3, vous voyez, dans la journée. Ça existe pas. Donc en fait, il y a vraiment cet échange avec un filtre qui est le technicien maille et après avec l'usine et le savoir-faire de l'usine avec tous les jacquards, les intarsiales. Et c'est vraiment une autre façon de voir le vêtement. Donc, pour un DA, c'est un terrain créatif parfois qui est répulsif. Il y en a qui supportent pas ça. Ou d'autres qui sont très excités parce que c'est une nouvelle façon de s'exprimer et de créer. J'avais trouvé un pull extraordinaire, je vais rejoindre Francesco Risso à nouveau chez Marnie, mais j'ai trouvé un sweater, ça s'appelait, donc c'est un sweater mais double. J'avais fait une photo pour un Saint-Valentin en mettant un coupe dedans, donc c'était un pull à deux têtes et seulement deux manches, donc vous rentriez avec votre chérie, mais c'est un truc des années 60, hein, c'était pas un truc fashion, et en fait pour vous réchauffer au coin du feu, et donc vous rentriez votre tête et votre bras gauche, l'autre sa tête et le bras droit, et vous pouviez vous faire un câlin comme ça. Extraordinaire. Et je l'avais posté, et du coup, Francesco m'a écrit immédiatement en disant je veux absolument cette pièce. Mmh. Et donc, c'est une pièce exceptionnelle parce qu'elle est vraiment de culture populaire. Il y avait l'étiquette avec un petit dessin, comment utiliser le sweater. Et vous avez ce truc-là. Donc, j'avais fait un truc de Saint-Valentin avec un pull marin que j'avais retricoté comme ça. Et quand j'avais envoyé à l'usine le patronage, ils m'ont dit vous êtes planté, il y a deux bras et deux têtes, ça n'a pas de sens. Et donc, j'avais dû expliquer par téléphone à l'italienne comment ça fonctionnait. Et c'est une pièce de maille assez drôle.
Voilà, il ne faut pas se disputer, sinon il y en a un des deux qui a froid.
Exactement.
Je vous pose la question à tous les deux, Alexandre Sanson et Borsarello. Est-ce qu'il y a des créateurs dont vous admirez particulièrement le travail aujourd'hui dans ce domaine de la maille?
Alors tu dis nouvelle, j'allais dire un truc très ancien, c'est Baudeux, une amie américaine qui s'appelle Emily Baudeux, qui fabrique des choses très poétiques en maille, avec beaucoup de rebroderies, beaucoup d'ornementations qui sont mises sur la maille, mais c'est pas du tout nouveau, parce qu'elle cite plutôt le passé en permanence dans la création. Moi j'aime toujours ce que fait Francesco, je l'ai beaucoup cité pendant l'interview, mais je trouve que c'est quelqu'un qui justement fait beaucoup de R&D. Il me fait penser à Margiela dans ce truc de tout le temps challenger l'idée du vêtement, l'idée de la création, et le côté très craft, très, ouais, très atelier. Je sais pas si t'as quelqu'un en tête en particulier.
Alexandre Sanson, dépité par la création.
Il y a ERL, e-like.
Non, parce qu'il y a beaucoup de productions justement qui le développent. Après, j'ai pas de personnes qui se dégagent en ce moment, qui ne travaillent que ça. Donc c'est vraiment le travail.
Il y a pas tout. C'est un bon travail sur la maille. Oui. Il y a une très bonne. D'ailleurs, si je peux citer sa styliste parisienne qui est dans l'ombre de beaucoup de maisons, qui s'appelle Brigitte Petit Homme, et qui est une femme extraordinaire qui est dans le dixième et qui travaille pour beaucoup de gens, parce que justement on a besoin de ces gens-là qui ont ce savoir-faire spécifique de la maille et qui peut vous dire tu veux ce résultat-là. Il y a telle usine en Chine, telle usine en Italie, telle usine en Europe de l'Est. La Chine est très 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 forte en maille. Depuis une dizaine d'années, vraiment, ils sont devenus extrêmement forts. Donc, il y a beaucoup d'usines à connaître là-bas. Donc, ces intermédiaires sont très importants. Il y a Carven qui avait fait un très beau travail sur la maille aussi.
Il y a des génies de la maille qui circulent entre les maisons comme ça. Mais c'est vrai que dans les studios de mode, c'est, comme vous le disiez, un poste qui est très à part. Mmh. Une catégorie de produits qui est très à part. Et on manque aussi cruellement de techniciens de maille parce que c'est un métier technique et compliqué.
Et c'est très frustrant pour le DA parce qu'en fait, le DA, il touche le tissu, il touche les hardware, donc les boutons, les zips, etc. Donc déjà, quand il fait du chaîne et trame, il a une vision assez rapide de à quoi va ressembler le vêtement. La maille, vous devez attendre de voir le produit fini, en fait. Et souvent, on dit, ah bah, ce sera pas la bonne jauge. Ça m'exagère. J'espère qu'on me dise non mais ne regarde que le fil. Je dis ouais mais
c'est dur de se projeter.
Ah, c'est hyper dur parce qu'en fait entre la main, la jauge, la tension, le point, on vous dit t'inquiète pas ça va être bien, mais en fait quand vous n'êtes pas technicien c'est extrêmement difficile de se projeter en amont. Ouais.
Mais ce sera le mot de la fin. Si vous avez envie de vous lancer dans la mode, vous pouvez étudier la maille et devenir technicien maille. Il y a du travail.
Si vous êtes fort en maths, parce qu'il y a vraiment un côté technique qui est hyper difficile.
Merci à tous les deux, Alexandre Sanson, Gauthier Borsarello. Gauthier, je rappelle que votre livre Good as Old est disponible aux éditions du Chêne. Alexandre Sanson, une actualité.
L'exposition consacrée au créateur de mode Rick Owens au Palais Galliera.
Dont vous êtes le commissaire. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui vont aider à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et à Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, il y avait Delphine Baudet. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.